76. Ils n'eurent pas le temps de poursuivre dans cette voie. D'autres arrivaient par douzaines. Ce devait être, estima Trévise, ceux qui n'étaient pas en mer ou dans les champs et qui ne venaient pas de trop loin. Ils arrivaient à pied pour la plupart, bien que deux véhicules terrestres fussent visibles, assez antiques et disgracieux. À l'évidence, c'était une société à la technologie primitive. Néanmoins, ces gens contrôlaient la météo. Il était bien connu que la technologie n'était pas obligatoirement homogène dans son développement. Ce manque d'évolution dans certaines voies n'excluait pas de considérables progrès dans d'autres. Mais sans doute, un tel exemple d'inégalité de développement demeurait-il inhabituel. Parmi ceux qui étaient en train de contempler le vaisseau, la moitié au moins étaient des hommes et des femmes âgées. Il y avait également 3 ou 4 enfants. Pour le reste, plus de femmes que d'hommes. Aucun des témoins, toutefois, ne trahissait la moindre crainte, la moindre hésitation. À voix basse, Trévise dit à Joie : « Êtes-vous en train de les manipuler ? » Il semble serein.
« Pas le moins du monde. Je n'interviens jamais sur des esprits, sauf obligation. Non, c'est Phalum qui me préoccupe. »
Si peu nombreux que fussent les nouveaux venus pour quiconque avait l'expérience des curieux sur n'importe quelle planète ordinaire de la galaxie, ils n'en constituaient pas moins une foule pour Phalum, qui avait déjà dû s'habituer aux 3 adultes voyageant à bord de l'étoile lointaine. Elle avait une respiration brève et haletante, les yeux mi-clos, et semblait presque en état de choc. Joie la caressait, d'un mouvement doux et régulier, avec des murmures apaisants. Trévise était certain qu'elle devait en douceur accompagner ce geste d'un réarrangement infiniment délicat de ses connexions nerveuses. Phalum prit soudain une profonde inspiration, suffoquant presque, et tressaillit, en proie à un frisson peut-être involontaire. Elle releva la tête et considéra les présents d'un regard qui pouvait passer pour normal avant d'enfouir sa tête dans le creux entre le bras de Joie et son corps. Celle-ci ne l'écarta pas, tandis que son bras lui enserrant l'épaule se raidissait périodiquement, comme pour mieux lui rappeler sa présence protectrice. Pélorat semblait passablement abasourdi, et ses yeux allaient d'un alphan à l'autre. Il remarqua.
« Ils sont tellement différents entre eux !»
Trévise l'avait noté, lui aussi. Il y avait diverses couleurs de peau et de teintes de cheveux, y compris un roux de feu avec des yeux bleus et des taches de rousseur. Au moins 3 adultes apparents étaient d'aussi petite taille qu'Hiroko, tandis qu'un ou deux étaient plus grands que Trévise. Quelques-uns, sans distinction de sexe, avaient les mêmes yeux qu'Hiroko, et Trévise se souvint que sur les pullulantes planètes commerçantes du secteur de Philly, ces yeux bridés étaient caractéristiques de la population. Mais ils n'avaient jamais visité ce secteur. Aucun des alphans ne portait rien au-dessus de la taille, et chez toutes les femmes, les seins semblaient menus. C'était pratiquement la seule constante morphologique qu'il put constater. Joie prit soudain la parole.
« Mademoiselle Hiroko, ma jeune compagne n'est pas accoutumée au voyage dans l'espace, et elle doit assimiler plus de nouveautés qu'elle n'en est capable. Lui serait-il possible de s'asseoir et d'avoir éventuellement quelque chose à boire et à manger ?»
Hiroko parut intriguée. Et Pélorat traduisit ce que Joie venait de dire dans le galactique plus orné de la période impériale moyenne. Hiroko porta aussitôt la main à sa bouche et tomba à genoux d'un mouvement gracieux.
« J'implore ton pardon, gente dame, » dit-elle. « Je n'avais pas songé aux besoins de cet enfant ni au tien. L'étrangeté de l'événement m'avait accaparé l'esprit. Voudrais-tu,
voudriez-vous tous, en tant que visiteurs et invités, « entrez au réfectoire pour le repas matinal, et pourrons-nous nous joindre à vous afin de vous servir d'hôte ?»«
C'est fort aimable de votre part, » répondit Joie.
Elle parlait avec lenteur, en détachant ses mots avec soin, espérant les rendre ainsi plus aisés à comprendre.
« Il vaudrait mieux, toutefois, que vous seul nous serviez d'hôtesse pour la tranquillité d'esprit de cet enfant qui n'est pas habitué à la présence simultanée de nombreuses personnes. »
Hiroko se releva.
il en sera fait selon tes désirs. » Et elle les conduisit d'un pas nonchalant à travers la prairie. Les autres alfans se rapprochèrent. Ils semblaient particulièrement intrigués par la mise des nouveaux venus. Trévise retira sa veste légère et la tendit à l'homme qui s'était glissé à sa hauteur pour en tâter l'étoffe d'un doigt curieux. « Tenez, lui dit-il, vous l'examinez, mais vous me la rendez. » Puis se tournant vers Hiroko, « Veillez à ce que je récupère ma veste, mademoiselle Hiroko. » Elle hocha gravement la tête. « Sans nul doute, elle vous sera restituée, respectée seigneur. » Trévise sourit et reprit sa marche. Il se sentait plus à l'aise sans veste, dans cette brise douce et légère. Il n'avait pas décelé la présence d'une seule arme chez ceux qui l'entouraient, et nota, non sans intérêt, que personne ne semblait montrer de crainte ou de gêne à la vue des siennes. On n'avait même pas manifesté de curiosité à leur égard. Il était fort possible que ces gens ne fussent même pas conscients de leur destination. D'après tout ce que Trévise avait pu constater jusque-là, il se pouvait bien qu'Alpha fût un monde parfaitement non violent. Une femme qui s'était rapidement portée en avant afin de précéder légèrement Joie se retourna pour examiner son corsage avec minutie. Puis elle demanda « As-tu des seins, ma gentille dame ?» Et comme incapable d'attendre une réponse, elle effleura la poitrine de la Gaïenne. Cette dernière sourit et dit « Comme tu as pu le constater, j'en ai. Ils n'ont peut-être pas le galbe superbe des tiens, mais je ne les scelle point pour cette raison. Chez nous, il est inconvenant de les laisser découverts. » Et en aparté pour Pellorat, « Que dites-vous de ma maîtrise du galactique classique ? Vous vous en tirez à merveille, Joie !» Le réfectoire était une vaste salle, avec des tables allongées munies de longs bancs fixés de part et d'autre. À l'évidence, les alfans prenaient leur repas en commun. Trévise éprouva un scrupule de conscience. La requête d'intimité de Joie avait mobilisé cet espace pour eux cinq, et de force, exiler le reste des alfans à l'extérieur. Un certain nombre, toutefois, s'était installé à distance respectueuse des fenêtres, de simples ouvertures dans les murs, pas même garnies de rideaux, sans doute afin de mieux voir manger les étrangers. Involontairement, il se demanda ce qu'il arriverait s'il se mettait à pleuvoir. Sans aucun doute, la pluie ne tombait qu'à l'endroit désiré, douce et légère, sans vent notable, jusqu'à ce que la quantité d'eau désirée fût obtenue. Trévise se dit qu'elle devait, qui plus est, certainement tomber à heure fixe, permettant ainsi aux alfans de prendre leurs précautions. La fenêtre devant lui donnait sur la mer, et très loin, à l'horizon, il lui sembla distinguer un banc de nuages analogue à ceux qui recouvraient presque uniformément le ciel partout ailleurs que sur ce minuscule carré d'Éden. La maîtrise du temps avait ses avantages. Enfin, une jeune femme vint les servir sur la pointe des pieds. On ne leur avait pas demandé de choisir, mais on déposa devant eux un petit verre de lait, un autre plus grand de jus de raisin et un troisième plus grand encore rempli d'eau. Chaque convive avait droit à deux gros œufs pochés, accompagnés de lamelles de fromage à pâte blanche, ainsi qu'à une bonne assiette de poisson grillé garnie de petites pommes de terre sautées et servie sur des feuilles bien vertes de laitue fraîche. Joie contempla, non sans un certain désarroi, l'étalage de victuailles disposé devant elle, manifestement incapable de décider par où commencer. Phalum n'eut pas les mêmes hésitations. Elle but avidement le jus de raisin, avec tous les signes d'une évidente satisfaction, puis engloutit le poisson et les pommes de terre. Elle les aurait bien mangées avec les doigts si Joie ne lui avait pas tendu une grande cuillère à l'extrémité dentelée qui pouvait également tenir lieu de fourchette. Pellorat eut un sourire de satisfaction, puis attaqua lui aussi ses œufs sans plus tarder. « Ah ! Savoir enfin à quoi ressemblent de vrais œufs !» dit Trévise, avant de faire de même. Oubliant elle-même son petit déjeuner, tout à son plaisir de voir les autres se régaler, car même Joie s'y était mise avec une évidente gourmandise, Hiroko leur demanda « Est-ce bon ?»«
C'est bon !» confirma Trévise, la bouche pleine. « Apparemment, vous ne connaissez pas de pénurie de nourriture sur cette île. Ou bien,
Nous servez-vous plus que de coutume, par politesse ? »
Hiroko l'écouta, le regard attentif, et parut saisir le sens de ses paroles, car elle répondit « Non, non, respecté seigneur. Notre terre est généreuse, notre mère plus encore. Nos cannes donnent des œufs, nos chèvres du fromage et du lait. Et puis il y a nos céréales. Par-dessus tout, nos eaux sont remplies d'innombrables variétés de poissons en quantité incalculable. L'Empire tout entier pourrait manger à notre table sans épuiser le poisson de notre océan. »
Trévise eut un sourire discret. À l'évidence, la jeune Alphane n'avait pas la moindre idée de la taille véritable de la galaxie. Il lui demanda « Vous appelez cette île Nouvelle Terre, Hiroko. Dans ce cas, où pourrait donc se situer l'ancienne ?»
Elle le regarda, ahurie. « L'ancienne Terre, dis-tu ?
J'implore ton pardon, estimé seigneur. Je n'entends point ce que tu veux dire. »
Trévise s'expliqua. « Avant qu'il y eût une nouvelle terre, ton peuple a dû vivre ailleurs. Où donc est cet ailleurs d'où il vient ?»«
Je ne sais rien de tout cela, respecté seigneur, dit-elle avec une gravité troublée. Cette terre a été la mienne durant toute mon existence, et celle de ma mère et de ma grand-mère avant moi, et je n'en doute point, celle de leur grand-mère et arrière-grand-mère avant elle. D'une quelconque autre terre, je n'ai nulle connaissance.
Mais, dit Trévise, revenant avec douceur à une argumentation simple, vous appelez néanmoins cette contrée Nouvelle Terre.
Pour quelle raison ?
Parce que, respecté seigneur, lui répondit-elle de la même voix douce, c'est ainsi que tout le monde l'a de tout temps appelé, puisque l'esprit de la femme n'est jamais allé à l'encontre de cette coutume.
Mais c'est une nouvelle terre, et par conséquent, une terre récente. Il doit bien en exister une ancienne, une terre antérieure, d'où celle-ci tire son nom.
Chaque matin se lève un nouveau jour, et cela implique bien qu'auparavant a existé un ancien jour.
Ne voyez-vous pas qu'il doit en être ainsi ?
Que nenni, respecté seigneur !
Je sais simplement comment est appelé ce pays.
Je ne sais rien d'autre, ni ne puis suivre le tien raisonnement qui ressemble fort à ce qu'ici nous appelons de l'ergotage,
soit dit sans vouloir t'offenser.
Sur quoi Trévise secoua la tête, se sentant bien abattue.